RJB Info.
Le journal avec Anthony Montandon.
Les débats ont été crispés hier au Conseil du Jura bernois. En cause, la candidature du PSA Pierre Mercerat au poste de vice-président. La gauche l'a soutenu en bloc, mais la droite estime que le parti autonomiste n'a plus sa place à la tête de l'institution qui défend les intérêts du Jura bernois. Un nouveau projet de réforme de la fiscalité des entreprises est en marche. La RFFA a suscité de vives discussions ce matin au Conseil des États. Le projet souhaite allier réduction fiscale avec assainissement de l'AVS. Une confrontation à double enjeu se jouera cet après-midi à Roland-Garros. La Roumaine Simona Halep rencontrera l'Espagnole Garbiñe Muguruza dans la demi-finale du tournoi parisien. En plus d'une place en finale, la gagnante pourrait rafler la place de numéro 1 mondial. Le ciel a été couvert ce matin, il pourrait toutefois s'éclaircir au fil de la journée, mais un retour des cumulus et des orages n'est pas exclu en soirée. Le mercure grimpera au mieux jusqu'à 23 degrés. Le PSA n'a plus sa place à la tête du Conseil du Jura bernois. C'est l'avis du groupe bourgeois qui a refusé hier de soutenir Pierre Mercerat, seul candidat officiel pour la vice-présidence de l'institution. L'UDC et le PLR ont tenté par deux fois d'élire la PSJB Morena Posner à cette fonction, mais elle a refusé. Les Verts, cinquième formation représentée au CJB, ont quant à eux déclaré ne pas être intéressés à occuper une place au sein du bureau. L'institution se retrouve donc dans une impasse, une situation jamais vue depuis sa création en 2006. En ce qui concerne le PSA, Pierre Mercerat avoue avoir très mal vécu la soirée.
J'ai dit d'entrée, c'est une triste soirée. C'est un montage qui s'est fait avec le PLR et l'UDC pour nous évincer. Et on a donné hier soir une image triste à nos nouveaux élus, qui étaient d'ailleurs choqués. Et aussi une image à l'extérieur triste de l'institution.
Comment vous voyez la suite à présent? Parce qu'on a vraiment l'impression de faire face à deux fronts bloqués qui sont à 12 contre 12. Vous imaginez une solution possible pour la prochaine séance fin juin?
Je ne sais pas encore. On n'a pas encore discuté entre les différents groupes. Ça sera difficile de toute manière. Et il faudra probablement quelques mois, voire des années, pour retrouver la sérénité qu'on avait après 12 ans. On a construit pendant 12 ans, avec l'ensemble des partis, un CJB quand même, qui fonctionnait avec une certaine consensualité. Et puis, maintenant, on est en train de repartir à zéro. C'est comme je dis, on est dans la même image que le Conseil régional l'était, lorsqu'ils n'arrivaient plus à s'entendre et que l'institution a foiré.
Afin de sortir de l'impasse, le nouveau président du CJB, l'UDC, Roland Benoît, invite pour sa part le PSJB et les Verts à faire machine arrière.
C'est à eux de savoir, donc à ce moment-là, c'est pas à moi de les convaincre non plus, mais j'espère qu'ils font preuve de sagesse et que quelqu'un se mette à disposition, car sinon, ces deux postes seront repourvus par deux personnes de droite. Je vois pas d'autre solution et ça serait regrettable que la gauche ne veuille plus siéger dans le cadre du bureau.
Et comment est-ce que vous pensez avoir une majorité finalement pour ces personnes du bureau, pour avoir des gens de droite par exemple?
Alors écoutez, donc on a un règlement. Si le règlement actuel est toujours en vigueur lors de la prochaine séance, ce règlement dit que la personne qui a le plus de suffrages est élue. Si on fait le calcul, les partis radicales et UDC ensemble représentent 12 voix, les autres partis 12 voix. S'il y a égalité, le règlement prévoit donc le tirage au sort.
Cet appel à la sagesse ne trouve pas d'écho du côté du PSJB. On écoute le socialiste tramelot Christophe Gagnebin.
Pour lui retourner l'ascenseur, c'est à la droite de faire preuve de sagesse, de ne pas accorder à un tournus qui existe au niveau de cette présidence du CJB plus d'importance que cela peut en avoir. Pour notre part, comme je l'ai dit, nous souhaitons disposer d'un siège au sein de ce bureau. Nous proposerons certainement de nouveau Mme Posner pour assumer la présidence durant la dernière année de la législature. Et nous espérons que la majorité bourgeoise acceptera de continuer la pratique qui prévalait jusqu'à présent, c'est-à-dire que, encore une fois, les groupes, dès lors qu'ils le souhaitent, accèdent à tour de rôle à la présidence du CJB.
Ce soutien du PSJB au PSA, ça peut surprendre hein, quand on voit le climat qui est parfois tendu entre les deux formations. Là, pour vous, c'est important de montrer que la gauche est soudée quand même sur cette question-là.
On a toujours dit que pour nous, la question jurassienne était réglée, donc nous avons envie d'aller de l'avant, de mettre l'accent sur les grands défis qui seront ceux du Jura bernois dans les années à venir. Et je pense que ça implique aussi un fonctionnement simplement normal des institutions, selon le principe que j'ai évoqué tout à l'heure.
Un dossier réalisé par Alexandre Steiner et Marie Vieumier, les Verts étaient quant à eux inatteignables ce matin. Et face à ce blocage, le Conseil du Jura bernois a demandé un avis de droit qui doit permettre de déterminer avec précision la suite du processus. L'ambiance s'annonce électrique ce soir au Conseil de ville de Bienne. Les élus devront débattre de l'organisation de l'autorité sociale. Le projet arrêté par le Conseil municipal à la suite d'un postulat prévoit de réduire les pouvoirs du directeur de l'action sociale. Plusieurs de ces tâches seraient ainsi transférées à une commission spécialisée. À gauche comme à droite, le projet est contesté. Anastasia Lirti.
Sans surprise, l'opposition au projet émane en premier lieu des rangs de l'actuel directeur de l'action sociale, Beat Ferrer. L'UDC évoque un quasi-coup d'État et une violation des valeurs démocratiques fondamentales. Pour le parti agrarien, pas de doute, il s'agit d'une attaque dirigée contre Beat Ferrer. Les radicaux romands, eux, se tâtent encore. À gauche, les conseillers de ville ne sont pas non plus satisfaits de cette variante. Pour les socialistes, le projet n'est pas au point. Bien que composé d'experts, la commission spécialisée n'aurait pas l'indépendance souhaitée, car Beat Ferrer la présiderait. Au sein de la fraction, le renvoi du projet est donc une possibilité. Même son de cloche chez les Verts, où on envisage aussi un renvoi. Le rôle de Beat Ferrer dans cette commission dérange. Il pourrait siéger en son sein, mais pas question de la présider. L'influence serait trop grande. Du côté des socialistes romands, un renvoi est aussi possible, car ce projet créerait un précédent. On estime par ailleurs que ce modèle, qui n'existe pas dans d'autres directions, n'est pas propice à la collégialité.
Le chômage a encore reculé au mois de mai dans le canton de Berne. Avec une baisse de 0,2 points, le taux s'établit désormais à 1,9% sur l'ensemble du territoire cantonal. Il reste toujours en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 2,4. La diminution est encore plus marquée dans le Jura bernois où le taux a chuté de 0,4 points pour s'établir désormais à 2,3%. La baisse est à peine plus modérée dans les arrondissements administratifs de Bienne et du Zeeland qui atteignent désormais respectivement des taux de 2,7 et 1,1%. C'est l'un des dossiers clés de l'actuelle législature fédérale. La Suisse doit adapter sa fiscalité des entreprises pour ne plus figurer sur la liste grise ou noire des paradis fiscaux. Il s'agit de supprimer les privilèges fiscaux dont bénéficient les sociétés étrangères, mais de conserver l'attractivité économique de la Suisse. Le précédent projet RIE 3 a été rejeté par le peuple. Le PF 17 cristallisait trop d'opposition. Voici la RFFA pour réforme fiscale et financement de l'AVS. Et le débat était intense ce matin au Conseil des États, à Berne, Serge Jubin.
Oui, après les vaches à cornes et le loup, le Parlement fédéral s'attaque au plat de résistance, la fiscalité des entreprises. La Commission de l'économie du Conseil des États, premier conseil à empoigner ce dossier, espère avoir trouvé la bonne formule. Oui, pour supprimer les statuts spéciaux et réduire la charge fiscale des entreprises, à condition d'y associer une importante compensation sociale. Le conseiller aux États PDC sur le roi, Pirmin Bischoff, président de la Commission de l'économie.
In der Kommission ist dann von mehreren Seiten die Idee.
En commission a surgi de plusieurs côtés l'idée d'opérer la compensation dans l'AVS. L'AVS, considéré comme l'acquis social le plus cher et le plus important de Suisse. L'AVS, oui, mais seulement une compensation financière dans cet objet et pas question d'opérer la réforme structurelle dont a pourtant besoin l'AVS. La compensation prévoit d'injecter chaque année 2 milliards dans l'AVS, c'est le montant correspondant des pertes de recettes fiscales dues à la réforme. La Confédération mettra un tiers, les employeurs un deuxième tiers et les employés le troisième tiers, avec une augmentation de 0,3% paritairement du taux de cotisation à l'AVS. Le débat est très nourri, plutôt en faveur du consensus, même si à l'UDC, on critique vertement cette improbable association d'une réduction fiscale avec une partie de l'assainissement de l'AVS. C'est pourtant la seule chance de passer, selon le conseiller aux États socialistes fribourgeois Christian Levra.
Nous avons retenu, et c'est un des résultats, à mon avis, incontestables du vote sur la RIE 3, que sans compensation sociale, il n'y a pas de réforme des entreprises qui soit envisageable.
Le Conseil des États devrait largement accepter la nouvelle RFFA, Réforme fiscale et financement de l'AVS avec tout de même pas mal de points de friction sur les éléments fiscaux spécifiques. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers le Conseil national qui traitera l'objet en septembre.
L'information est désormais confirmée. Le matin ne sera plus que disponible sur Internet. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le groupe Tamedia, propriétaire du titre. 41 personnes doivent être licenciées, dont 24 dans la rédaction du quotidien Orange. La nouvelle rédaction 100% numérique fonctionnera dès la fin juillet avec environ 15 personnes. De son côté, le syndicat Syndicom a dénoncé les licenciements qu'il considère comme étant une violation de la procédure de conciliation.
Il est midi 26.
Sport.
C'est un match à double enjeu qui va se tenir cet après-midi à Roland-Garros. Simona Halep défie Garbiñe Muguruza en demi-finale de ce tournoi de tennis du Grand Chelem. La Roumaine et l'Espagnole se disputeront une place en finale de l'épreuve parisienne. Elles se battront aussi pour la place de numéro 1 mondial. Simona Halep doit gagner ce match pour conserver la tête du classement WTA la semaine prochaine. Dans le cas contraire, elle céderait son trône à Garbiñe Muguruza. La Roumaine se montre donc méfiante avant ce duel. Simona Halep.
I have to expect some hard points, power. So,
je dois m'attendre à des points très difficiles et de la puissance de sa part. On va voir. Elle joue rapidement avec tout le monde, quel que soit l'adversaire, elle joue son jeu. Je dois donc rester forte, essayer de la mettre mal à l'aise sur le court et de jouer mon jeu. Elle a un style où elle frappe tout. Elle a remporté ce tournoi et donc ce sera un grand défi pour moi.
She was in this position, she won this tournament, so it's going to be a big challenge for me.
Après avoir remporté Roland-Garros en 2016, Garbiñe Muguruza espère pouvoir ajouter à nouveau son nom au palmarès de l'épreuve. Même si elle connaît une saison compliquée, Garbiñe Muguruza.
Elle est numéro 1, c'est une très grande joueuse. Je me réjouis de jouer une belle demi-finale. Je vais sur le court et j'adore jouer au tennis. Ce n'est pas parce que je ne souris pas en jouant que je ne me fais pas plaisir. On est sur des grands courts, j'aime le Philippe Châtrier, l'atmosphère qu'il y a ici. À l'intérieur, c'est un moment important, même si on ne sourit pas forcément.
Un dossier de notre envoyé spécial à Roland-Garros, Marie Seriani. Ce duel va commencer vers 15h, suivra l'autre demi-finale féminine entre les Américaines Madison Keys et Sloane Stephens. Également au programme aujourd'hui à Paris, la fin des quarts de finale masculins. C'est une première dans la région. La Coupe du Monde de Duathlon sera lancée dimanche à Tramelan. Une manche des Powerman World Series se tiendra en même temps que les championnats de Suisse de la spécialité. Quelques-uns des meilleurs athlètes de la planète seront de la partie, à l'image du français Gaël Lebelec. Ils devront avaler 10,2 km de course à pied, 61 km de vélo de route et 10,1 km de course à pied à nouveau. Et quelques régionaux seront au départ, principalement sur l'épreuve de courte distance. Ce sera le cas de Maxime Oxenbein. Le citoyen de Reconvilliers va découvrir cette discipline qui lui permet d'éviter le passage en piscine du triathlon. Maxime Oxenbein.
Je suis une pive en natation, je sais nager, mais ça s'arrête là. Si je me lance dans un triathlon, je pense qu'au bout des 750 premiers mètres de natation, je serai déjà grillé et puis au bout de ma vie. Donc pour ma part, c'est plutôt un avantage d'avoir finalement que la course à pied et puis le vélo, des sports que je pratique plus volontiers et puis où je me suis plus entraîné. C'est vrai que pour moi, ça sera une découverte. C'est vrai que ce que j'ai surtout fait aux entraînements, c'est des cassures de rythme. C'est-à-dire que tout à coup, on fait énormément de moulinage avec le vélo, avec des petites vitesses, que tout à coup, on remet des gros braquets, qu'on refait beaucoup de grandes vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le duathlon, ça se fait avec un vélo de course, donc ça change aussi pas mal la donne par rapport au mountain bike que j'ai plutôt l'habitude de pratiquer.
En plus du duathlon au programme dimanche, la deuxième manche du championnat jurassien de triathlon se tient samedi à Tramelan. Détails et horaires sur le www.triathlon-tramelan.ch. La course des Franches s'offre un coup de neuf. La deuxième manche du trophée jurassien de course à pied se tient demain soir au Noirmont. Plus de 600 concurrents devraient y prendre part. Le GS Franche-Montagne propose de tout nouveaux parcours pour cette édition. 10 km pour la grande boucle et 6,5 km pour le petit tracé. Les explications d'Alexis Montagnard-Rentier, l'un des initiateurs de ce nouveau parcours.
On a voulu apporter un peu de nouveauté pour se moderniser et garder un peu d'attractivité sur notre course.
et apporter un parcours un peu plus sympa, avec beaucoup plus de sentiers, avec des plus jolis points de vue sur le Noirmont, sur les Sommettres et tous les paysages qui nous entourent.
Vous aviez deux parcours assez proches en termes de distance. Là, il y a davantage de kilomètres d'écart. C'était aussi clairement un but.
On voulait en tout cas volontairement créer une petite différence entre les deux pour que le petit parcours reste plus différent et plus accessible aux populaires, et ça peut leur servir de galop d'essai avant de se lancer sur le grand parcours l'année suivante.
Et se rapprocher, voire atteindre les 10 km pour le grand parcours, c'était aussi un but?
Ça fait un chiffre rond, comme ça on est sur un parcours avec 10 km tout rond, et on trouvait ça aussi sympa.
Des propos recueillis par Mathieu Schaffner, la course des Franches, c'est demain soir au Noirmont. Détails et horaires sur le www.gsfranches-montagne.ch.
Et le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. D'ici 13h, on a encore l'occasion d'écouter le nouveau morceau de Nico Santos. Cet après-midi, il y aura quelques moments d'ensoleillement avant que les cumulus ne refassent leur retour. Le risque d'averse sera également présent cet après-midi et se prolongera en soirée. Et sachez d'ailleurs que la grêle, elle aussi, sera de la partie sous les orages forts. Et côté température, on nous annonce des maximales pouvant grimper jusqu'à 22 degrés. Pour l'heure, les thermomètres affichent entre 19 et 20 degrés à Lanneville, à Bienne, à Delémont, à Moutier et à Tavannes. Et entre 17 et 18 degrés à Tramelan et à Saint-Imier. Demain, l'ambiance sera toujours encore lourde avec un mélange de nuages et d'éclaircies plus ou moins généreuses, sans oublier la pluie qui sera toujours encore de la partie. Quant au risque orageux, il sera présent en toute région et les thermomètres pourront afficher 25 degrés au meilleur de la journée. Samedi, le week-end se poursuivra avec quelques bancs de brouillard ou lever du jour, sinon le temps sera plutôt ensoleillé, hormis quelques cumulus et un risque orageux en baisse.